J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas.
Pour l'avant-dernier épisode de La haine de la poésie, on revient sur les moments marquants des 16 derniers épisodes. Avec La haine de la poésie, on souhaitait donner la parole à des individus provenant de tous les horizons afin de cerner leur rapport à la poésie. Nous leur demandions quelle était leur définition de la poésie, quelle place prenait-elle dans leur vie, quelle était son utilité selon eux. Nos plus de 30 invités ont eu des réflexions diverses et plusieurs méritent qu'on y revienne dans cet épisode Best of. Commençons par les définitions de la poésie. Une question difficile qui, d'un invité à l'autre, apporte de nouvelles lumières. D'une part, Jean-Pierre Masse explique en détail une définition de la poésie avec les mots et une définition avec la poésie avec les images et les sons.
Et je dirais que la poésie, c'est ceci. C'est un concentré de signification et d'émotion dans un langage figuré. Là, on parle de la poésie avec les mots, la poésie en littérature. Un concentré de signification et d'émotion, ça veut dire que la poésie n'est pas d'abord une description, une narration, ni un message. Donc, le langage figuré, ça veut dire aussi que ce n'est pas le langage courant, où les mots ont une utilité. Point. Ils servent à identifier les choses, à nommer. Mais ils ne servent pas à évoquer, à rêver, à nous transporter plus loin, au-delà de leur définition du dictionnaire. Hein? Ils sont pratiques. La poésie, dans ce genre littéraire, c'est là où les mots ont le plus de pouvoir pour entrer en contact, sans intermédiaire, immédiatement avec le réel. C'est que si on compare les images, que ce soit en cinéma, que ce soit en poésie, en peinture ou en photographie, on voit pour imaginer, alors que quand on lit, on imagine pour voir. C'est deux démarches complètement différentes. C'est deux façons totalement étrangères l'une à l'autre. Bien, pas tant que ça, mais en même temps, c'est deux démarches qui ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas le même type de poésie, mais le résultat final, c'est que c'est toujours de la poésie.
Catherine Dorion décrit quant à elle la poésie comme étant un feeling.
Ah, moi, j'aime ça, ce mot-là, puis je me suis mis à lui coller tout feeling qui nous décolle du train-train, du hamster dans nos têtes, là, de nos conditionnements. Fait que tu marches dans la rue, tu t'en vas chez telle personne chercher tel colis parce que telle affaire, puis tout à coup, quelque chose arrive qui te sort de ça, puis t'es tout à coup dans le moment présent, tu tombes dedans comme dans un peu comme dans un lit de ouate, là. Tu tombes dedans, t'es enveloppé par ça, c'est extrêmement confortable, ça fait du bien. Souvent, c'est accompagné d'une émotion de « Hey, il y a telle chose qui se passe en ce moment, je peux voir ça, je peux entendre ça ou je peux sentir ça, c'est extraordinaire. » Puis ça tremble dans la peau, dans le corps, ça bouge des choses en dedans, ça replace des trucs. C'est comme l'ostéopathie du moment présent.
Puis François Dumont affirme, à la source, que la poésie est l'expression d'un manque.
Pour moi, la poésie, ça désigne davantage un manque, je dirais. À mon avis, c'est l'expression d'un manque que la poésie cherche à identifier, qu'elle ne cherchera pas nécessairement à combler. Et j'aime beaucoup ce que disait Borges là-dessus. Il disait, en parlant de la poésie, que c'était l'imminence d'une révélation qui ne se produit pas. Je trouve ça très juste parce que c'est comme si ça nous mettait près d'une sorte de révélation, mais que donc on est juste au moment où ça pourrait advenir et que ça n'advient pas. Ce qui suppose que le lecteur, la lectrice prend le relais en quelque sorte.
Georgette Leblanc, quant à elle, se risque à définir la poésie comme étant une zone de prélangage dans laquelle elle crée.
Je ne sais pas c'est quoi la poésie. J'ai aucune idée. J'ai aucune définition. C'est un petit peu frustrant parce que je suis poète, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Puis c'est un petit peu... Je ne sais pas. Fait que je ne suis pas la cute, là. ne dis pas ça comme ça pour jouer l'intéressante. C'est sincère. Je sais pas ce que c'est pour moi, écrire, ou en tout cas comme j'écris, ou ce que je perçois comme étant peut-être un petit peu la poésie, c'est une c'est comme une zone ou une région, une expérience humaine avant, presque pré-langage. C'est comme une, c'est jouer avec les mots, c'est jouer avec le langage à partir d'une expérience humaine. Ça fait que c'est comme une, c'est une zone pré-langage, selon moi. Puis on utilise les mots pour exprimer ce qui devient poétique, ce qui devient comme, une, comme un retour à cette possibilité-là, signification multiple, possible du mot. Pour moi, c'est ça la poésie.
Pour Noémie Pomerleau-Cloutier, la poésie est simplement une façon de vivre.
C'est tellement complexe, la poésie, en fait, et tellement simple à la fois. Pour moi, la poésie, c'est comme une façon de vivre. Une façon d'aborder le monde, puis de le percevoir, puis de le rendre au monde et aux gens. C'est pas mal ça. C'est, la poésie, ça peut aussi être des moments. Puis, tu sais, j'aime pas tout le temps ça non plus quand on dit « Ah, ça, c'est de la poésie », mais ça, pour la poésie du quotidien ou quelque chose, un truc du genre, mais en même temps, c'est vrai. C'est ce qui est le pire, tu sais. Je veux dire, c'est de savoir trouver la beauté à quelque part, puis la rendre au monde. Et c'est aussi être capable de passer des émotions avec diverses formes d'images. Mais il y a autant de poésie, je pense, qu'il y a de poètes, selon moi.
Il faut dire que le titre de l'émission « La haine de la poésie » a beaucoup fait réagir. D'abord avec Alain Deneau.
Simplement, quand il était question de haine de la poésie, moi, ça m'a fait penser au livre de Pascal Quignard, « La haine de la musique ». Et évidemment, quand Pascal Quignard écrit « La haine de la musique », il n'est pas lui-même haineux de la musique. Et quand on lit son texte et qu'on le comprend, on ne partage pas non plus une haine. Simplement, on comprend que, comme le vent, la musique et la poésie peuvent être absolument déroutants pour l'esprit. Et c'est, je dirais même, souhaitable. Et là où... moi, je dis souvent aux gens, parce que je ne suis pas particulièrement mélomane, hein, je pourrais presque dire que je ne le suis pas du tout, je dis souvent aux gens que tel est le cas parce que j'aime trop la musique. J'ai envie de dire que je hais la musique parce que je la respecte trop, je la respecte dans sa puissance, et je pourrais presque dire la même chose de la poésie.
Puis avec François Dumont.
Moi, j'aimerais peut-être revenir sur le titre de votre émission « La haine de la poésie », parce que il me semble, moi, qu'il y a davantage une indifférence, disons. Parfois, c'est vrai qu'il y a une indifférence qui peut être teintée de mépris ou alors qui est simplement une sorte d'ignorance. Il me semble bien davantage qu'une haine à l'égard de la poésie, parce que moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est que cette haine-là à l'égard de la poésie, elle est bien davantage présente chez les poètes eux-mêmes. C'est une façon pour la poésie de lutter contre elle-même jusqu'à un certain point. Et moi, je trouve que c'est un aspect très important dans la poésie qu'on ne prend pas souvent en considération, comme si la poésie se célébrait elle-même. Mais moi, je trouve qu'au fond de la poésie, il y a très souvent ça, cette tension-là, qui fait que les critiques les plus féroces de poésie, ben ça va être, mettons, Rimbaud, ça va être tous ceux qui ont suivi, qui ont remis en question la poésie pour essayer d'en faire une sorte d'adversaire dynamique. Et on le voit beaucoup, je trouve, chez les poètes, les jeunes poètes contemporains, mettons, qui s'opposent à la poésie propre, dans l'opposition à un certain type de lyrisme, par exemple, qui l'opposition au ton philosophique ou aux prétentions philosophiques. Donc, il me semble que, d'une part, dans l'espace public, il me semble que c'est plus de l'indifférence que de la haine. Puis, d'autre part, cette haine-là, il me semble que c'est dans la poésie elle-même qu'on la trouve le plus.
Dans plusieurs de nos entrevues, il a également été question de l'acte de création. Plusieurs de nos invités portaient quelques chapeaux, parfois de poètes, de romanciers, romancières, d'essayistes. Cela a été question notamment avec Mireille Gagné, qui a abordé la différence dans le travail de recherche entre la création de romans et la création de poésie.
Pour moi, qu'est-ce qui est différent avec la poésie, c'est vraiment dans le défrichage de l'émotion, des symboles. T'sais, si on regarde logiquement la suite de mes écrits, il y a toujours, même si en finalité ils sont pas publiés dans l'ordre qu'ils sont écrits, il y a toujours une période de défrichage, comme dans Le ciel en bleu. Je l'ai écrit quelques mois avant le roman Le lièvre d'Amérique. Donc, je commençais à aborder le sujet du travail dans la création. C'est une partie qui est vraiment destinée au bureau. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est une période de défrichage. Je vais analyser des symboles. Je vais analyser le langage. Je vais faire beaucoup de lectures là-dessus. Puis, tu sais, c'est comme ça que ça va se construire par la suite. Tu sais, je vais vraiment analyser tout ce qui est symbolique, tout ce qui touche à l'inconscient un peu. Puis je vois vraiment beaucoup plus loin que dans le roman. Dans le roman, on s'entend, je m'arrête à un certain moment pour garder un lien avec le réel, tandis qu'en poésie, il y a aucune frontière, en fait, que je les abolis, puis je me rends assez loin dans l'image pour essayer de déstabiliser davantage le lecteur, puis laisser place aussi à l'émotion qui peut vivre à travers ça.
Michaël Bergeron en parle également dans sa façon de mettre de l'émotion dans ses chroniques journalistiques.
Je crois vraiment profondément à l'importance de l'émotion. Puis bon, j'en parlais justement, c'est ce que je recherche quand je consomme la poésie. Puis même quand j'écris justement sur des sujets qui sont parfois très drabes, je trouve ça vraiment important d'y mettre une part d'émotion, ou du moins de mettre une espèce de... Bon, je trouve que c'était pas tellement la façon de le dire, mais comme une espèce de notre essence d'humanité, tu sais. Je vais prendre cet exemple-là, mais un budget municipal, c'est pas juste des colonnes de chiffres, ça a un impact dans la vie quotidienne. Donc, j'aime aller chercher ce côté-là. Donc, OK, donc oui, il y a un budget, mais quel impact ça a après sur le logement social? Puis le logement social, bien, ça a un impact sur la vie des gens, sur la misère des gens, donc sur si une personne va en arracher ou non pour survivre. Ça a un impact aussi sur notre urbanité, donc comment on se déplace dans la ville, ça a un impact aussi sur notre vie. Donc, je trouve que c'est important, en fait, de revenir, je trouve, à ce que moi, je trouve, les racines. C'est comment nous, on vit, puis les émotions qu'on vit, puis comment on fait pour traverser à travers notre vie, en fait. Donc, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, puis j'essaie toujours de garder cette espèce de racine émotive-là dans mes textes. Donc, tant mieux s'il peut y avoir une forme de poésie là-dedans. Mais j'essaie d'y mettre un peu d'humanité.
Ben, c'est ce que j'étais pour dire. C'est pour moi une des définitions que j'aime beaucoup de la poésie. Puis la poésie aussi à son sens large, des fois qui dépasse les mots, qui va vraiment, tu sais, maintenant la poésie est j'étais pour dire galvaudée, là, mais je pense qu'elle est utilisée à plusieurs sauces, souvent à bon escient, mais pas tout le temps. Je trouve que c'est cette part d'humanité-là, des fois, qui va se dégager quand on touche à quelque chose de très humain, même quand on débroussaille, comme tu dis, des fois des chiffres, tu sais, mais de ramener les humains qui étaient là, puis de redonner toute cette vie-là à cette matière-là, je trouve que c'est là qu'on retrouve un peu de cette poésie-là. Là.
Un échange entre Michaël Bergeron et Éric Leblanc qui aborde la dichotomie qu'il y a entre l'intellectuel et les émotions et la façon dont la poésie est souvent vue comme étant automatiquement complexe a été, selon nous, particulièrement marquant.
J'aime beaucoup que tu amènes cette dichotomie-là, en fait, qui existe, puis qu'on place souvent là, les émotions, l'intellectualité. Puis c'est vrai que dans la poésie, puis dans le travail poétique littéraire, il faut pas autant, des fois, les séparer, mais se rappeler du lien qui existe entre les deux. Puis je trouve que c'est vraiment important ce que tu ramènes. Puis j'ai aimé que tu dises, tu sais, on met nos tripes sur la table, mais je vais faire un jeu de mots peut-être malheureux, mais c'est aussi un trip, la poésie, tu sais, c'est triper, c'est s'amuser avec les mots, c'est s'amuser, tu sais, puis des fois, pousser loin, autant l'intellectualisation que pousser loin les émotions, que pousser loin, tu sais, c'est aller au bout de quelque chose dans plein de sens du terme. Puis en effet, tu sais, une fois qu'on a sorti ces idées-là, ces émotions-là, effectivement, il faut les rationaliser jusqu'à un certain point, tu sais, il faut les amener pour qu'elles soient intelligibles aussi pour ceux qui vont vouloir se plonger dans notre univers et tout ça. Non, je trouve que c'est effectivement une dichotomie qu'on a rapidement tendance à faire, mais il faut se souvenir que les deux sont intrinsèquement liés.
Oui, je trouve qu'il y a quelque chose, en fait, de l'équilibre à aller chercher. Parce qu'effectivement, si c'est purement émotif, qu'on tombe dans le cliché du cri primal, bon, à un moment donné, je pense que ça reviendrait souvent au même. Puis en même temps, si ce n'est qu'un pur jeu intellectuel, je pense que là, on manque un peu de cette émotion dont on parle depuis tantôt. Mais je pense que l'idée, c'est de trouver cet équilibre-là. Donc effectivement, il y a un processus émotif qui on va essayer de rendre ben, intelligible ou accessible grâce justement à un travail qui est plus intellectuel, mais des fois aussi c'est l'inverse, c'est une espèce d'idée très abstraite qu'on veut réussir à rendre concrète grâce aux émotions. Il me semble que l'art, c'est justement ça, c'est de réussir à trouver cette force-là entre l'émotion et l'intellectuel, puis c'est lorsque les deux réussissent à bien se marier et à se combiner que là, on tombe devant quelque chose qui a une force et qui a une puissance.
Puis je trouve que c'est tout cet équilibre-là que tu as bien ciblé, Michael, qui montre le métier, en fait. Oublier, ne pas oublier aussi que la poésie est un métier. C'est savoir tricoter ces émotions-là pour les amener à l'autre.
Je pense qu'on a tendance des fois à voir comme un jeu intellectuel comme une forme de complexité automatique, comme si la complexité est automatiquement intellectuelle et quelque chose d'intellectuel est automatiquement complexe, alors que pas du tout. Même que la simplicité est excessivement difficile, que ce soit en poésie ou en illustration, le minimalisme, la simplicité, c'est tough à être succinct. Mais quand même, pour moi, il y a cette espèce de cliché-là que oui, dès que c'est complexe, intellectuel, alors que pas du tout, ça peut être très complexe, c'est juste très confus aussi en même temps.
C'est très drôle parce que je trouve qu'on a souvent tendance à amalgamer aussi ce côté péjoratif-là de l'intellectualisation à la poésie, alors que justement, tu sais, c'est un art qui est très senti, très sensible.
Samuel Larochelle en a discuté avec la poète Noémie Pomerleau-Cloutier.
Ça a longtemps été la chose qui me faisait peur. Que je pensais être obligatoirement abstraite, avec des rimes, avec un décompte précis de pieds, donc de syllabes, puis que c'était normal qu'on comprenne pas tout le temps, puis que c'était même idéal et voulu de la part des auteurs qu'on comprenne pas tout, un peu comme certaines œuvres d'art visuel, qu'il faut juste se laisser imprégner par une émotion après avoir contemplé les mots. Mais il y a quelque chose en moi qui me donnait l'impression, il y a 2 ans, que c'est par la poésie que j'allais pouvoir découvrir autre chose avec ma plume, puis à propos de moi-même. Puis au début, j'ai essayé de correspondre à ce que j'imaginais être la poésie. C'était vraiment, vraiment mauvais. Puis à un moment donné, dans un échange avec une date, des échanges textos qui étaient romantico-poétiques, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Je suis capable de créer des images hyper fortes, hyper originales, que j'ai jamais vues ailleurs. C'est ça aussi de la poésie.
François Dumont a amené le fait que la poésie est vue comme une spécialité un peu pointue, qui la rend difficile d'approche.
Je pense qu'aujourd'hui, la poésie est devenue davantage une spécialité qu'à cette époque-là. Mais il faut dire qu'il n'y a pas seulement la poésie qui est devenue davantage une spécialité, mais on la traite de plus en plus comme une spécialité aussi. C'est-à-dire que, par exemple, dans la critique, on parle très rarement de poésie. Quand on en parle, c'est toujours dans un secteur séparé du reste de la littérature. C'est comme si c'était vraiment une sorte de spécialité pointue, disons. Donc, on n'a pas l'impression que c'est une parole qui s'adresse à tant de gens par le fait même.
Valérie Forgue a finalement abordé cette dichotomie, souhaitant rappeler que la poésie est un échange avant tout.
Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, je rajoute, tu sais, même s'il y a des poésies qui sont très exigeantes, puis c'est vraiment important, mais la poésie n'est pas toujours simple et limpide, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est toujours quelqu'un qui parle, qui s'adresse, tu sais, à une autre personne, tu sais. Je pense que des fois, la poésie, tu sais, je ne sais pas pourquoi on a cette tendance à soit à être hyper cérébral en disant « mais je ne comprends pas », tu sais, on veut tellement comprendre, mais c'est comme, fais juste écouter ce qu'on te dit en ce moment, tu sais, puis des fois, on peut le prendre de façon juste très terre à terre. Prends ces mots-là, puis entends-les, reçois-les, puis voilà, tu comprends, tu sais, cherche pas de midi à 14h et tout, tu sais, ça reste un échange, ça reste quelque chose de... Même dans les poésies qui nous semblent des fois justement les plus hermétiques, tu sais, il faudrait comme laisser tomber un peu cette tendance-là, tu sais, à être trop dans la tête puis à plus juste recevoir ce qui est dit. Tu sais.
Plusieurs sont arrivés à la poésie par la performance. C'est le cas notamment de Rachel McCrum, qui est arrivée en poésie au Québec par les soirées de performance de poésie en français.
Quand je suis arrivée, my French was terrible. C'est pas parfait maintenant, mais I was going to these poetry lectures and poetry readings without necessarily understanding everything that was being said on stage. And what was interesting for me was that I could fall in love with the rhythm, with the expressiveness. I was learning the sound of the language before I was learning the vocabulary. And I keep trying to persuade people to go to poetry readings and say, look, even if you don't understand everything, it will give you a sense of the beauty of the fluency of the language. Et même pour l'autre côté, for French francophone, for French language people to go to English poetry readings and go understand the rhythm of the language, understand the expressiveness, understand the beauty of it.
C'est également le cas de Paul Bordello qui en discute avec Valérie Forgue.
Mais mon rapport à ma poésie est plus avec il y a 5 ans quand j'ai découvert la scène littéraire poétique grâce à Valérie là, à Québec, les nuits de la poésie, les spectacles, spectacle de rhizome. Puis après ça, j'ai découvert donc la poésie par le spectacle. Mon oreille s'est faite vraiment avec le spectacle. Puis après, j'ai comme compris. C'est là la base.
C'est comme si il y avait un côté plus accessible, tu sais, que d'être seul devant un livre puis de le lire avec ta propre voix dans ta tête, tu sais, de voir quelqu'un devant toi qui livre sa poésie avec sa voix, avec sa présence, dans une performance et non juste des mots sur un papier.
Mm-hmm. C'est également le cas de Michaël Bergeron.
J'aime beaucoup aller voir la poésie dans les événements, dans les soirées littéraires. C'est vraiment là, je trouve, que je capte le souffle du poète ou de la poète. Je trouve qu'il y a quelque chose de très personnel, en fait, dans la poésie. Donc, j'ai l'impression que quand j'entends la personne qui écrit le texte, ça me donne une couleur que des fois, tu n'as pas toujours simplement en lisant. Puis j'aime avoir ce souffle-là, j'aime avoir l'émotion dans la voix. J'aime sentir le rythme aussi. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup vivre live, que j'aime ressentir. J'aime quand il y a une émotion. T'sais, j'aime ça quand il y a quelque chose de brut ou sauvage, un peu punk. Fait que moi, c'est ce que j'aime de la poésie, c'est qu'elle vient me brasser dans mes émotions.
Finalement, Jean-Pierre Masse aborde la nuit de la poésie 70 et quels étaient les objectifs de la captation de cette soirée?
On était là, Labrec et moi. On a été frappés par ce qui est arrivé. Puis qu'on voulait que les gens qui n'avaient pas assisté à la nuit ce soir-là aient la poésie en pleine face et en plein cœur comme on l'a eu. Et Jean-Claude et moi, on se dit, la poésie nous a rentré dedans. Puis ce qu'on veut, c'est que la poésie leur rentre dedans.
Le rapport à l'autre a également été discuté amplement lors de nos entrevues. En discutant avec Vincent Lambert, François Dumont a affirmé qu'un bon poème était pour lui un poème qui propose une ouverture et plusieurs lectures.
Bien, je pense, moi, qu'il y a davantage d'ouverture dans la poésie. Pour moi, un bon poème, c'est un poème qui multiplie les ouvertures, donc qui multiplie les occasions d'intervenir pour le lecteur. Mettons, un roman policier bien ficelé, par opposition, souvent, je trouve qu'il y a moins de ces ouvertures-là pour la personne qui lit, tandis que dans le cas du poème, on est davantage sollicité jusqu'à un certain point, on est davantage poussé à intervenir par son interprétation, par son investissement, disons, comme lecteur. Pour moi, c'est ça qui fait la différence, essentiellement, entre la poésie et les autres genres littéraires.
Moi, j'ajouterais peut-être une image à ce que François dit. Quand j'essaie de définir ce que fait le poème, pour moi, c'est un peu comme si on avait un grand mur blanc et puis qu'on voyait au centre un ensemble de mots écrits là. Donc, pour moi, la poésie, c'est quand on parle d'une révélation qui est reportée, c'est de s'avancer vers ces mots-là qui par l'espace qui les entoure, sont désignés, tu sais, par une certaine... C'est comme si la poésie s'auto-désignait comme une parole, disons, centrale. Donc, on peut jouer avec ça, on peut s'approcher puis voir que finalement, ces mots-là, c'est pas grand-chose, c'est comme une blague. Mais il y a cet horizon d'attente-là derrière la poésie qui en fait une parole, disons, essentielle.
Ce rapport à l'autre a également été discuté entre Amélie Laurence Fortin et Isabelle Godet-Labine lorsqu'elles discutent de co-création.
Bien, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est que l'œuvre, le travail d'Amélie et d'Audrey est venu aussi apporter une épaisseur de sens au texte qui était pas là. En lui-même, les poèmes existaient, avaient leur vie, si on veut, mais donc on a ajouté à la polysémie, on a ajouté à la vie de ces poèmes-là. Donc ces rencontres-là entre les œuvres, et moi je pense que c'est formidable pour ça, c'est que ça, c'est des œuvres entières, complètes en soi, mais on les met ensemble, puis tout à coup, c'est comme s'il y avait un troisième terme, une troisième œuvre, un autre langage qui sort de ce dialogue-là, puis ça, ben, c'est vraiment juste dans la rencontre que ça se produit.
Finalement, plusieurs de nos invités nous ont avoué avoir écrit de la poésie dès l'adolescence et sentent que l'enfance est un lieu où la poésie émerge aisément, comme c'est le cas de Noémie Pomerleau-Cloutier.
Je trouve que les enfants, c'est des très bons poètes aussi. T'sais, mon neveu, quand il avait 9 ans, il a lu Brassé de Varech, qui est quand même difficile. T'sais. C'est difficile, ça parle quand même du suicide de son grand-père. Puis moi, je n'étais pas sûre du tout que c'était une bonne idée qu'il lise ça, mais c'est sa mère qui a décidé. Il sait déjà comment son grand-père est décédé. Puis j'ai dit, comment tu as vu ça? T'sais, qu'est-ce que tu as compris? Puis il m'a dit, j'ai compris que les humains, c'est des arbres. Et c'est, à ce jour, la meilleure explication du recueil. Les enfants ont souvent la réponse. Puis en fait, le problème avec la poésie, c'est qu'on cherche une réponse. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs.
À la page 58 de l'édition traduite en français de La haine de la poésie, on peut y lire « Pour les romantiques comme Shelley, la poésie contrebalance l'avarice calculatrice d'une société matérialiste, offrant une alternative à un utilitarisme froid, aveugle, à tout ce qui ne saurait être instrumentalisé. L'usage de la poésie est ainsi indissociable de son inutilité. C'est précisément en raison de la nature contradictoire de la vocation poétique, elle est à la fois plus ou moins qu'un travail, que son utilité dépend de son inutilité pratique, que le labeur du poète nous met mal à l'aise et nous inspire le mépris. En effet, la poésie serait une sorte de liant qui permet de mieux habiter le monde pour plusieurs des invités qui sont passés à l'émission. D'abord, François Dumont considère que la poésie sert à voir plus clair.
Ça sert à voir plus clair, ça sert à être plus présent.
Alain Deneau a également parlé du rapport à l'utilité.
Ce qu'on pourrait dire, il me semble, sur cette question de l'utilité, Pierre Klossowski, par exemple, a tenté de montrer que la notion d'utilité est elle-même une fiction. C'est-à-dire qu'on finit par conférer de la substance à des propositions idéologiques qui sont du vent, hein, qui ne reposent sur rien d'autre que leur propre postulat. L'utilité aujourd'hui, ça serait une voiture. C'est utile, une voiture, c'est même nécessaire. On voit bien qu'il y a une construction là-dedans. C'est utile dans un système qui est celui du consumérisme, hein, du productivisme, hein, de la médiation par le salaire, de tout accès aux biens marchands qui sont devenus indispensables. Donc là, Klossowski essaie de montrer que le statut utile de quelque chose relève lui aussi d'une fiction. Bon, et la poésie est tout à fait subversive quand il s'agit de penser les choses à leur source. Je dirais, pour prendre le contre-pied, que la poésie n'est surtout pas utile, hein, surtout que l'utilité, elle est utile dans la mesure où elle nous fait voir que l'utilité ne l'est pas, hein, mais aussi elle est, peut-on dire, efficace. On peut au moins dire ça, elle a de l'effet.
Pour Catherine Dorion, en pratique, dans notre société actuelle, la poésie ne sert à rien, mais c'est ce qui fait en sorte qu'elle est aussi importante.
C'est vrai, c'est que, dans le fond, si je tantôt je te dis la poésie, pour moi, c'est partout, c'est dans le moment, dans des moments présents inattendus. Ça veut dire que tu as des moments où tu es affairé, où ce que tu fais est utile, puis tout à coup, tu as un moment qui t'arrive, ça peut être... Encore une fois, ça a l'air quétaine, mais le chant des oiseaux dans un arbre, ça m'est déjà arrivé de faire comme hey, « voyons, je n'avais pas remarqué qu'ils chantaient autant », à me mettre à les écouter puis à me dire tout à coup « mais c'est d'une telle beauté le chant des oiseaux ». C'est quétaine ce que je dis, mais ce n'est pas quétaine, c'est vrai. Genre, c'est quand tu écoutes le chant des oiseaux, ce petit son-là est tellement parfait, c'est tellement beau, genre, c'est quoi, t'as des petits animaux, une autre espèce que nous, qui partage la terre en même temps que nous, qui est là, il fait son affaire, il est dans sa réalité à lui, puis tout à coup, il chante, puis moi, ça m'apporte un agrément que je comprends pas, je sais pas pourquoi, je me mets à me concentrer sur la qualité du son, sur le grain, sur le comment il est fait, et je sais pas pourquoi, ça m'envahit d'une émotion intense, puis mais c'est pas triste, là, c'est une émotion merveilleuse, là, un moment merveilleux, là, meilleur qu'un orgasme, meilleur que je sais pas quoi, là, c'est extraordinaire. Puis qu'est-ce qui crée ça? C'est comme un cadeau qui m'arrive et qui ne sert absolument à rien, qui me sort de ma roue de hamster, qui est pas... Je suis tout à coup désenchaînée de cette suite de choses à accomplir qui m'éloigne de la réalité.
Paul Kazak a finalement discuté de l'utilité de l'art avec Stéphanie Requin-Tremblay.
Mais moi, je pense qu'il y a, un véritable enjeu avec la démocratie, c'est-à-dire que si la démocratie, ce serait donc les gens peuvent donner leur avis, mais le problème, c'est que est-ce que l'avis il va être déjà formaté, donc il peut y avoir un feedback de la société qui fait que tout le monde pense un peu pareil. Mais si, par exemple, tu travailles dans ton coin à essayer de, justement, par des gestes performatifs ou comme ça, ou par même juste avoir la conscience que ça pourrait être une performance, enfin, bref, je pense que ça te permet de te réapproprier une certaine façon de qu'est-ce que ton existence. Et en ce sens-là, peut-être être à même de savoir, d'avoir une voix plus particulière pour participer à la vie démocratique, à la vie citoyenne, tout simplement à la société, c'est-à-dire que ça permet d'affiner ou d'aiguiser ton propre sens de l'existence. Puis souvent, quand on aiguise son propre sens de l'existence, je ne pense pas que ça va vers la haine ou la peur. Enfin, souvent, ça va vers une plus grande compréhension de soi, etc., ce qui, globalement, permet d'être plus tolérant ou de connaître ses défauts, etc.
Finalement, la majorité des artistes invités situaient leur art du côté de la résistance. C'est le cas notamment de Yannick Renaud.
Je pense que à peu près toute poésie résiste par le langage. Donc, à moins que ce soit une poésie qui soit excessivement narrative, qui ne questionne pas le mot, quelque chose qui serait tout simplement descriptif, juxtaposer des mots qui n'iraient pas dans le sens du discours commun. Je trouve que par là, il y a résistance nécessairement.
Merci d'avoir été des nôtres à la haine de la poésie. On se retrouve dans 2 semaines avec 2 nouveaux invités, Daniel Canty et Pierre Neveu.
Une production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.